Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Elle est de ces femmes artistes dont l'œuvre a longtemps été négligée. Je vous raconte un esprit libre qui, en dépit de toutes les injonctions de son siècle, a fait de sa peinture sa première raison de vivre et une arme politique à en faire trembler l'Amérique, la peintre fichée au FBI, Alice Neal. Nous sommes le 21 février 1984 à Burbank, en Californie, aux États-Unis, lorsqu'elle fait son entrée sur le plateau du Tonight Show de Johnny Carson.
Alice Neal is with us tonight. She is considered one of America's foremost portrait painters. She has the honor of being a member of the Academy of Arts and Letters. This is a story of her life and her work. Would you welcome, please, Alice Neal?
Alice Neal, dame élégante de 84 ans, est applaudie avec ferveur, vous l'entendez, hein, par le public de l'émission diffusée sur la NBC. Aidée d'une canne et du bras de l'humoriste, elle avance devant la caméra pour s'installer dans le fauteuil réservé à l'invité. Les plus grandes stars américaines y ont pris place et voici son tour. Alice Neal est sereine, sûre d'elle. Elle plaisante et fait résonner ses éclats de rire dans le studio. Moins de 8 mois avant sa mort, plus souriante que jamais, l'artiste savoure son succès. Une reconnaissance d'autant plus précieuse qu'on la lui a longtemps refusée. Alice Neal est née en Pennsylvanie en 1900 dans l'atmosphère rangée de la petite ville de Colvin, qu'elle avouera avoir détestée. À travers ses yeux d'enfant déjà, cette bourgade lui semble une représentation ennuyeuse et stéréotypée de la vieille Amérique où tout le monde se ressemble, où l'on ne rencontre pas un peintre ni un écrivain pour observer d'un œil critique ce qui l'entoure. Son âme artiste ne trouve alors du réconfort qu'auprès de sa mère, qui lui parle théâtre, littérature ou musique. Dans la vie de tous les jours, Alice est de ces jeunes gens hésitants qui peinent à faire des choix, même les plus simples. Pourtant, au plus profond d'elle-même, elle a conscience très tôt de n'avoir qu'une ambition, devenir peintre. À 21 ans, Alice Neal étudie à la Philadelphia School of Design for Women. C'est à cette époque qu'elle rencontre son premier mari, Carlos Enriquez de Gomez. Un beau cubain, comme elle le décrit, né d'une grande famille, avec qui elle embarque pour la Havane quelques mois après la fin de ses études en 1926. Là-bas, sur l'île brûlante des Caraïbes, elle vit entourée de musiciens, d'écrivains et d'artistes de l'avant-garde. Avec Carlos, peintre lui aussi, elle descend dans les rues de la capitale et prend pour modèle les habitants qui acceptent de poser pour elle. Sur la toile, c'est son intérêt prééminent pour l'humain qui se dessine. À l'aube de sa carrière, Alice Neal n'aspire plus qu'à travailler et à progresser. Mais la vie brise bientôt son élan. Le couple vient à peine de s'installer à New York, ville pleine de promesses, que Santillana, leur petite fille d'un an à peine, meurt de diphtérie. Alice Neal ne cesse pas de peindre, non, mais le sujet s'impose de lui-même sur ses toiles. La tristesse imprègne ses tableaux de brutalité, de questionnement fréquent sur la maternité. 2 ans après le drame, la voilà séparée de sa seconde fille, Isabeth, que Carlos Enriquez emmène vivre loin d'elle, à Cuba. Seule et très appauvrie, à 30 ans, Alice Neal est contrainte de retourner vivre chez ses parents, en Pennsylvanie, et sombre dans une grave dépression. Mais, comme à chaque coup du destin, elle relève la tête, pinceau à la main. Après un séjour en hôpital psychiatrique, Neal revient à New York, où elle bénéficie des programmes de commande publique mis en place dans le cadre du New Deal, imaginé par le président Roosevelt pour relever les États-Unis de la Grande Dépression que le pays connaît. Comme Alice, finalement. Sur l'île de Manhattan, elle se relève. Alice Neal trouve l'inspiration partout, dans les rues bohèmes de Greenwich Village, au début des années 30, puis au cœur du quartier hispanique de Harlem, où elle vivra durant plus de 20 ans. Et encore une fois, c'est l'amour qui a guidé ses pas jusque-là. Avec son nouveau compagnon, José Santiago Negrón, un musicien portoricain, Alice Neal a un fils et trouve sa place au sein de la communauté d'immigrés hispaniques qui peuple le barrio. C'est vrai que New York est une cité de toutes les couleurs, et Alice le clame sur ses toiles. Son œuvre montre la population de l'Amérique du XXe siècle sans distinction d'origine, de sexe ou de classe. Elle raconte les États-Unis tels qu'ils sont depuis le krach boursier de 1929. Elle dépeint et peint l'injustice, la précarité et même la tuberculose qui se propage dans les quartiers les plus pauvres. Pour Alice Neal, la ville est une muse. Elle n'y recherche pas les visages apaisés, mais ceux que le tourbillon urbain a abîmés. « Torn apart by the city », comme elle le dit. Neal se décrit comme une collectionneuse d'âmes, haïssant la froideur et le conventionnalisme des portraits figés traditionnels qui ne trahissent aucune émotion véritable. Dans ces tableaux qu'elle préfère appeler des « pictures of people », elle veut au contraire saisir ce qu'il y a de vivant chez l'autre. Sa peinture, résolument figurative, se veut réaliste, presque une photographie. Ce qui est totalement à contre-courant de l'abstraction reine de l'époque. Mais elle n'abandonne pas pour autant la liberté que lui offre son art. Les couleurs vives, les perspectives tronquées et les traits anguleux de ses dessins contribuent à émouvoir celui qui les regarde. Soucieuse de mettre à l'aise ses modèles, Alice Neal les invite dans son appartement new-yorkais où se trouve son atelier et leur parle longuement en même temps qu'elle travaille. La proximité qu'elle instaure avec eux est certainement le secret de la saisissante vérité de ces personnages. Les Dominican Boys, 108th Street. Alors bon, les Dominicains, les garçons dominicains de la 108e rue. Les Two Girls in Spanish Harlem, les Black Boys ou encore l'intellectuel afro-américain Harold Cruz ne sont que quelques-unes des figures de ce qu'Alice Neal a elle-même comparé à une comédie humaine balzacienne. Une fresque sociale qui ne saurait, à première vue, contrarier le sommet de l'État. Et pourtant, au début des années 2000, l'artiste plasticienne Jenny Holzer découvre que le FBI possède un dossier au nom d'Alice Neal. Fiché en 1951, l'artiste peintre est catégorisé bohème romantique de type communiste. Il faut dire qu'à l'époque, aux États-Unis, il ne fait pas bon pencher trop à gauche. Quelle partie du globe ne grouille pas d'espions en ce début de guerre froide ? À l'Est comme à l'Ouest, les esprits dissidents sont surveillés de près. Du côté des États-Unis, face à la menace que représente l'URSS, la peur rouge s'installe et enfle jusqu'à la paranoïa. Au début des années 50, le sénateur républicain Joseph McCarthy mène la traque aux sympathisants communistes. Et le directeur du FBI, John Edgar Hoover, doit contribuer à lutter contre, je cite, « la propagation de la doctrine soviétique en surveillant ses ennemis de l'intérieur ». Alice Neal n'échappe pas à cette chasse aux sorcières. Elle est farouchement attachée à la justice sociale, vous l'avez compris, révoltée aussi par les discriminations envers les minorités et sensible aux idées progressistes. Mais le principal reproche qui lui est fait est qu'elle côtoie et peint des figures du Parti communiste auquel elle a adhéré, ce qui n'est pas pour plaire à Mr. Hoover. Sa liaison avec le cinéaste et photographe marxiste Sam Brody, qui sera le père de son quatrième enfant, ne joue certainement pas non plus en sa faveur. Le FBI donc ouvre l'enquête. Les 11 et 17 octobre 1955, près de 20 ans après son adhésion officielle au Communist Party USA, Alice Neal est soumise à plusieurs interrogatoires. De nature plutôt audacieuse, elle ose alors demander aux deux agents qui s'apprêtent à la questionner de poser pour elle. Une requête qu'elle se voit refuser, preuve que son style ne fait décidément pas l'unanimité. La bohème romantique n'est finalement pas inquiétée. S'essoufflant probablement en même temps que le McCarthyisme à partir de 1954, les investigations du FBI ne semblent pas aller plus loin qu'une surveillance rapprochée. Dans les années 60 et 70, l'œuvre artistique de Neal sort de l'ombre, enfin. Ses nus sans mise en scène ni séduction intéressent les mouvements féministes, dont elle devient l'une des figures majeures. À défaut d'avoir pu immortaliser des agents du FBI, elle peint désormais aussi des personnalités comme Andy Warhol ou l'actrice transgenre Jackie Curtis. En 1974, l'exposition que lui consacre le Whitney Museum de New York lui offre une légitimité qu'elle n'attendait plus. En dépit de tout ce dont la société l'avait convaincue jusqu'ici, qu'elle était avant tout une femme et une mère, elle se sent enfin en droit de peindre. Ce qu'elle fera avant de s'éteindre 10 ans plus tard, elle qui déclarait avoir toujours aimé les perdants, les outsiders, n'en fait plus partie.
Europe 1, historiquement vôtre.